voudrais vous parler ce matin en introduction d'un homme dont je vais afficher la photo, que vous ne connaissez probablement pas, qui s'appelle Karl Rebeder. Karl Rebeder, c'est un Autrichien qui a vécu une expérience assez intéressante. C'est quelqu'un qui a réussi dans la vie, il a monté une entreprise de décoration, il est devenu multimillionnaire et il s'est payé donc une très belle maison. Il avait une maison dans le Tyrol avec un jardin paysager, un spa, un terrain de beach volley, un grand garage avec plein de... Ah, c'est bon, ça marche, c'est chouette. Voilà, enfin, ce qu'on peut rêver de mieux comme réussite dans la vie. Vous voyez, il y a une montagne tyrolienne derrière. Et à un moment donné, sa réussite, bien entendu, lui a causé quelques déboires de couple. Il a divorcé après 17 ans de mariage. Et à 48 ans, il a pris une décision radicale. Il a décidé de tout vendre et de s'acheter un petit chalet, tout petit chalet en montagne, et de vivre avec 1000 euros par mois. Voilà. Qu'est-ce qui a motivé ça? C'est parce qu'un jour, il a fait un voyage, il a beaucoup voyagé. Il a fait un voyage en Amérique du Sud et il a vu en Amérique du Sud que les gens étaient finalement très heureux avec pas grand-chose. Voilà ce qu'il écrit. « J'ai réalisé que la plupart des gens pauvres qui vivent là-bas sont beaucoup plus heureux que l'Européen moyen. La publicité nous dit-il qu'il faut posséder le dernier jean de marque ou une grande maison. C'est ce que la pub nous dit, mais les gens qui possèdent ça n'ont pas l'air plus joyeux. » Et donc, il a tout vendu. Je vous passe les détails. Il a fait une loterie. Il a vendu des billets à 99 euros. Et une Bavaroise a eu le plaisir, pour 99 euros, de gagner tout ça. Bref, il s'est retiré dans son chalet d'alpage et il vit avec 1000 euros par mois. Bon, je ne sais pas si cet homme est chrétien. Il a pris une décision dans un certain sens. Et voilà, on le voit sur cette photo. Là, il est très content avec 1000 euros par mois. Donc, vous allez le... Vous le devinez, on va aborder aujourd'hui la question de l'argent, des possessions. On fait la suite donc du sermon sur la montagne, dans le chapitre 6 de Matthieu. Alors, on va pas parler d'argent. Il y a des gens qui disent l'argent ne fait pas le bonheur. Et puis d'autres ajoutent, mais il y contribue quand même. Donc le tout, c'est de savoir combien il faut avoir. Et on va aborder donc cette question des possessions. J'ai appelé les possessions parce que c'est pas un message sur l'argent. Je veux pas faire un message sur l'argent, parce que si je fais un message sur l'argent, il va être connoté avec mon point de vue. Et ça va être, je vais forcément le colorer d'une certaine façon. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va suivre le texte et on va voir ce que Jésus nous dit sur les possessions. Je préfère utiliser ce mot-là. Le mot possession, en fait, c'est une des traductions plus imagées du mot mammon. Qu'on retrouve dans ce texte de Matthieu 6. En fait, je vais bientôt fêter mes 30 ans de vie commune avec le Seigneur, 29 ans de vie commune avec mon épouse, 30 ans avec le Seigneur. Voilà. Et je crois qu'en 30 ans, j'ai jamais entendu de prédication ou de message sur les questions financières. Donc, c'est des questions apparemment délicates à aborder dans l'Église. Donc, je vais essayer de l'aborder, mais vraiment d'un angle... qu'est-ce que Jésus nous dit avec une étude très systématique? Voilà, ce texte qu'on va lire ensemble sur les possessions, c'est un texte qui est très facile à comprendre, mais qui est difficile en termes d'interprétation et d'application. Donc on va essayer de vraiment décortiquer ça et de voir ce qu'il peut nous apporter. Je pense que c'est un véritable enjeu spirituel. Ce n'est pas juste une question matérielle, combien je gagne, combien je donne, combien je dépense. C'est vraiment un enjeu qui est spirituel. Donc je vous invite à ouvrir vos Bibles sur... dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 6, et on va lire des versets 19 à 24. Donc c'est très court, mais je vous invite vraiment à ouvrir vos Bibles, parce que garder la Bible sous les yeux, c'est un texte qui est court, extrêmement dense. Il y a énormément de mots qui ont beaucoup d'importance pour essayer de comprendre la globalité de ce que Jésus veut nous dire dans le sermon sur la montagne. Donc je lis à partir du verset 19, version second 21. « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre où les mites et la rouille détruisent et où les voleurs percent les murs pour voler, mais amassez-vous des trésors dans le ciel où les mites et la rouille ne détruisent pas et où les voleurs ne peuvent pas percer les murs ni voler. En effet, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, combien ces ténèbres seront grandes? Personne ne peut servir deux maîtres, car ou il détestera le premier et il aimera le second, ou il s'attachera au premier et méprisera le second. Vous ne pouvez pas servir Dieu et Mammon. Alors dans la seconde 21, c'est écrit l'argent, mais je préfère utiliser Mammon parce que c'est beaucoup plus large. Donc, passage très court, il y a un parallèle dans l'évangile de Luc au chapitre 11. Et Luc ne traite que la question de l'œil et de la langue du corps. Il ne traite pas la question d'amasser des richesses et il ne traite pas la question de nul ne peut servir de maître. Il n'y a que l'œil. Par contre, dans l'évangile de Luc, c'est intéressant parce que Luc a fait une condensée du sermon sur la montagne et il met côte à côte l'œil à la lampe du corps et ce qu'on a déjà vu au chapitre 5, vous êtes la lumière du monde, la notion de lumière et d'éclairage. Voilà, je ne vais pas trop m'étendre là-dessus, mais c'est intéressant. Sachez que voilà ce qu'on trouve dans l'évangile de Luc. Avant d'aller plus loin, je voudrais juste faire un rappel du contexte du sermon sur la montagne. Alors, j'insiste un peu beaucoup là-dessus, mais pour ceux qui nous visitent ou ceux qui n'ont pas suivi ou qui ont manqué des messages, c'est important de comprendre que cette parole de Jésus va s'insérer dans un contexte du sermon sur la montagne. Et le sermon sur la montagne, est-ce que vous vous souvenez du thème clé dont je vous avais parlé? Quel est vraiment le thème central du sermon sur la montagne qu'il faut bien retenir? C'est bien. Donc, ça veut dire que les rappels sont utiles. Donc, pour moi, le thème central, c'est vraiment la question du comportement extérieur versus ce qui se passe au-dedans de moi. C'est la cohérence entre l'intérieur et l'extérieur. Et le verset clé qui va avec, c'est le verset du chapitre 5 et du verset 20. « Si votre justice ne dépasse pas celle des pharisiens et des scribes, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. » Ça veut dire que Jésus dit à ses auditeurs et à nous que si on ne va pas plus loin que les pharisiens qui étaient hypocrites à l'intérieur et qui étaient tout propres à l'extérieur, qui vivaient dans la religiosité, comme disait Guy, si on a une vie double comme ça et si on n'est pas cohérent entre ce qu'il y a dans notre cœur à l'intérieur, on le verra tout à l'heure, et ce qu'il y a à l'extérieur, on ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu, on ne peut pas être un disciple de Jésus. Donc ça, c'est important à comprendre. Et donc, dans le sermon sur la montagne, on a vu successivement, hein, je passe vite, donc les béatitudes, 8 étapes d'ascension spirituelle. On a vu ensuite l'appel à la responsabilité du disciple, vous êtes sel et lumière. Et puis, on a vu qu'il y avait ce fameux verset, donc aller au-delà de ce que font les pharisiens, cette hypocrisie des pharisiens. Et puis, on a abordé ces exemples d'attitudes coupables de péché qu'il nous faut bannir pour mettre notre comportement en conformité avec Christ. Alors, c'est le comportement de colère via le meurtre, hein. Celui qui se met en colère littéralement commet un meurtre, hein. C'est le « vous avez appris qu'il a été dit, mais moi je vous dis ». Donc, se mettre en colère, il y a la bonne manière de rentrer en relation avec Dieu, si tu présentes ton offrande à Dieu, mais si ta relation avec ton prochain est entachée, ce n'est pas la peine de présenter ton offrande, va te réconcilier. Et puis le troisième point, c'est les mauvais désirs via l'adultère. Si tu regardes une femme pour la convoiter, tu as déjà commis un adultère, et ce n'est pas que l'adultère physique. Le quatrième point qu'on a vu, c'est la domination, c'est-à-dire c'est via le divorce. Hein, si tu ne connais pas l'intention première du Créateur dans le mariage, ben, tu vas divorcer à tort et à travers. Tu vas utiliser la latitude que Moïse vous a donnée pour abuser de cette attitude. Et donc, il encourage à respecter l'engagement du mariage. Et puis, le cinquième point, c'était le manquement à la vérité via les vœux et l'engagement. Ne te précipite pas pour faire un vœu. Hein. C'est la notion de parole pure, que votre oui soit oui, votre non soit non. Et enfin, le dernier des points qu'on a vu ensemble, il y a un mois et demi, c'est la notion de vengeance, est-ce qu'il faut se venger ou pas? C'est un véritable choix. Et puis, on a terminé par des instructions pratiques, 3 instructions pratiques sur comment savoir donner, comment prier et comment jeûner. Et là, on a vu qu'il y avait 2 manières de le faire. Soit on le fait d'une manière visible et on reçoit une récompense immédiate, soit on le fait de manière cachée, on rentre dans sa chambre, on donne discrètement, on jeûne sans montrer aux autres, mais on montre à notre Père qu'on jeûne et qu'on l'aime. Eh bien, ces instructions pratiques sur comment donner, prier et jeûner nous amènent justement à nous examiner intérieurement, à examiner nos motivations. Et donc aujourd'hui, on va aborder cette autre question de l'argent et les richesses. Et les possessions, les richesses, l'argent, on peut le dire d'une manière différente. Et ça va préparer un autre thème qui sera traité la prochaine fois, qui sont les inquiétudes. Et on verra que ce thème, donc Matthieu 6, 19 à 24, est très lié aux inquiétudes, 25 à 33, qui commence par « Ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, pour votre corps, de quoi vous serez vêtu. » Donc ça va préparer cette prochaine fois. Et les deux, on verra, sont intimement liés. C'est pour ça que Jésus les associe, et c'est pour ça qu'il faut les envisager dans leur globalité. Alors, l'argent dans ce texte, bien sûr, est central, les possessions sont centrales, mais ce n'est pas que l'argent et les possessions, c'est aussi notre engagement, le temps qu'on va consacrer au Seigneur qui est important, et on verra que c'est surtout une question de priorité chez nous. Quelles sont nos priorités dans la vie? On a vu ce Karl Rebeder qui a décidé à un moment donné radicalement de changer de priorité. A priori, il n'est pas chrétien, mais il a pris en tout cas cette décision. C'est une question de cœur. On verra ce que c'est que le cœur, parce que ce n'est pas facile de comprendre ce que c'est que le cœur. Et on verra, comme je vous ai dit, c'est un véritable enjeu spirituel dans nos vies. Et c'est vraiment une question de décision personnelle. C'est-à-dire chacun d'entre nous, moi le premier, on a chaque jour des décisions à prendre par rapport à ces thèmes. Donc c'est un thème hautement important. Qu'on va essayer maintenant de développer. Alors, qu'est-ce qu'on observe dans ce texte? Finalement, dans ce texte, Jésus va présenter trois choses, dans un ordre qui est très intentionnel pour aborder cette question des possessions et des biens matériels. Et c'est un problème qui est subtil, parce qu'on a tous besoin de biens matériels. C'est pas vrai? Est-ce que vous n'avez pas besoin d'une voiture, d'une machine à laver, de vêtements? On en a tous besoin. Donc c'est légitime, c'est des questions qui sont légitimes. Le tout, c'est de savoir quand ces biens vont devenir des épines qui vont étouffer la parole de Dieu et la rendre infructueuse. C'est ce que nous dit la parabole du semeur. Au chapitre 13, Jésus va aborder les paraboles du royaume. Et dans la parabole du semeur, il va parler d'un terrain qui est envahi par les épines qui étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Et c'est pour ça que Jésus va aborder cette question sous quatre angles. L'angle, donc, on verra, l'angle du cœur, l'angle, donc, du corps, l'éclairage du corps, l'angle du maître, qui est-ce, quel maître je vais servir, et l'angle des inquiétudes. Aujourd'hui, on va voir trois de ces quatre points. Mais retenez bien ces quatre points qui constituent une globalité du verset 19 au verset 33. C'est un global. Donc, Jésus, il va aborder ce qu'on appelle, non pas le 4-4, mais le 4-3. C'est quoi le 4-3? Eh bien, il y a trois choses qui sont en jeu d'abord. Trois choses qui sont en jeu, qui concernent l'homme. Il y a le cœur, il y a le corps, comme je vous l'ai dit, et il y a la notion de maître qui concerne plus notre esprit. C'est-à-dire, c'est la partie spirituelle qui est propre à l'être humain. Vous savez que l'animal et l'homme ont reçu le souffle, la vie, mais l'être humain a en plus ce niveau spirituel qui lui permet d'être en relation avec quelque chose de supérieur que n'a pas l'animal. Donc Jésus va aborder les trois aspects de l'être humain. Il y a trois choses donc qui sont en jeu. Et puis Jésus va parler de trois oppositions. Il y aura trois oppositions. L'opposition de lieu, il parle du ciel et de la terre. Il va parler d'un état, lumière et ténèbres, qui sont opposés. Et il va parler de deux maîtres différents, Dieu et Mammon. Mammon sont les possessions, les richesses et l'argent. Voilà. Et puis, on va voir aussi trois actions. Jésus va détailler trois actions. Premièrement, l'action d'amasser. Ensuite, la notion d'éclairer. Et enfin, la notion de servir. Là aussi, on y reviendra. Et ces éléments-là vont générer trois questions. Trois questions qu'on va traiter et qui sont très importantes pour notre vie. Quelles sont ces trois questions ? Première des questions, c'est « Où est mon cœur ?» Ça va être ça. Il va falloir que chacun en réponde à la question « Où est mon cœur ?» La deuxième question à laquelle on va répondre, c'est « Comment est mon œil ?» On va beaucoup parler d'organes. On ne va pas faire de médecine aujourd'hui, mais on va parler d'organes quand même. Et puis la troisième question, c'est « Qui est mon maître ?» Voilà. Si on arrive à bien répondre à ces questions, on va pouvoir répondre la fois suivante. Hein, la personne qui traitera le message sur les inquiétudes va nous aider énormément à répondre à cette question des inquiétudes. Et aujourd'hui, le monde est inquiet, le monde est angoissé. On verra que ce mot inquiétude, ce mot grec inquiétude, signifie littéralement un tiraillement. L'inquiétude, c'est je suis tiraillé, je pars dans tous les sens. D'accord ? Donc, si je résume, hein, vous savez, j'aime bien faire des petits schémas. Alors, pour ceux qui écoutent le message, je suis désolé, vous n'avez pas les schémas, mais vous pouvez me les demander. Donc, on a le cœur, on a l'œil, et on a le maître. Hein, et les trois sont liés, je vous ai dit. Hein. Les trois sont liés dans un espèce de cycle. C'est-à-dire que chacun dépend l'un de l'autre. C'est-à-dire que le cœur, Jésus commence par le cœur, donc je pense qu'il y a une intention, on verra laquelle. Ensuite, Jésus va parler de l'œil, il va parler des maîtres, et tout ça s'auto-alimente. Voilà, retenez ça. Et le maître, c'est le côté spirituel, comme je vous ai dit, parce que l'homme a été créé à l'image de Dieu, donc l'homme a été créé un être spirituel. Donc les gens qui disent ni Dieu ni maître, ça n'existe pas. On verra que l'homme sert toujours celui qui l'a rendu esclave. On n'a pas le choix, en fait. Même si on ne le sait pas, même si on pense ni Dieu ni maître, on n'a pas le choix. On sert toujours quelqu'un, un maître, et c'est plus ou moins, ça a des conséquences dans nos vies. Et ce texte de Jésus nous permet de véritablement prendre soin de son âme et de la faire prospérer. Vous savez, quand l'apôtre Jean écrit à Gaius, il lui dit « Je souhaite que tu prospères comme prospère aussi ton âme ». Et faire prospérer son âme est quelque chose d'important, justement pour éviter les inquiétudes. Ça prépare cette conclusion du chapitre 6 sur les inquiétudes. Alors c'est quoi l'âme ? C'est un peu compliqué de parler d'âme, parce que le mot âme on comprend, mais bon, c'est où l'âme ? Voilà. Le mot qui est utilisé pour âme, c'est le psyché. D'accord ? Par exemple, quand Jésus va dire en Jean 12 « Maintenant, mon âme est troublée », hein, « mon âme est troublée », il utilise ce mot-là, ce mot psyché. L'âme, c'est vraiment la partie éternelle de l'homme, la partie immatérielle, c'est l'esprit de l'homme, c'est le moi, le je, c'est notre état intérieur. Par exemple, quand Jésus dit « Celui qui voudra sauver sa vie la perdra », eh bien le mot « vie », c'est le mot « âme », c'est le même mot, c'est le mot « psyché ». D'accord ? Donc c'est important parce que c'est une question de sauver ou de ne pas sauver son âme. Et quand Jésus dit au chapitre 6, verset donc 25, hein, le passage de la prochaine fois, « Ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, pour votre corps, de quoi vous serez vêtu », on a exactement le même mot là. « Ne vous inquiétez pas pour votre âme ». C'est pour ça qu'il faut comprendre ce que c'est que ce mot « âme ». Hein, ce mot âme qui est vraiment la partie intérieure, la partie éternelle de l'être humain. Par opposition à l'esprit, l'esprit c'est le souffle que Dieu a mis en l'homme, et le souffle, ben, vous savez, c'est le mot grec pneuma, pneumatique, etc. D'accord ? Donc l'esprit c'est la partie qui est en relation avec Dieu, la partie propre à l'homme, et l'âme c'est vraiment cette partie éternelle qui est intérieure à l'homme. Et c'est pour ça que ce texte, si on le comprend bien, va nous permettre de prendre soin de notre âme, et notamment de prendre soin de notre santé spirituelle, émotionnelle. Donc je n'ai pas trop le temps de parler de ça, mais c'est un sujet extrêmement important, parce que je constate de plus en plus que beaucoup de chrétiens ne sont pas en bonne santé émotionnelle et spirituelle. Ils sont en bonne santé physique peut-être, mais pas émotionnelle et spirituelle. Voilà, je ne dirai pas plus sur l'âme, mais comprenez l'enjeu de ce texte. Alors, on va revenir donc au premier élément qui est le cœur. Alors, le cœur, il s'agit d'amasser, hein, la partie qui concerne le cœur, donc les versets 19 à 22. Il s'agit d'amasser. Alors, Jésus dit « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre ». Ce qui est intéressant de voir, c'est que les mots qui sont utilisés, le mot « amasser » et le mot « trésor » font partie de la même famille. C'est le mot qui a donné « théoriser », hein, « thésauriser », pardon, « thésauriser », pas « théoriser », « thésauriser ». D'accord ? C'est comme si Jésus dit « ne vous thésaurisez pas des thésaurus sur la terre ». Voilà. Donc, c'est exactement ce mot-là qui dit ne vous amassez pas sur la terre des trésors. Donc il s'agit d'amasser. Hein. Amasser, ça veut dire mettre de côté, c'est l'idée d'accumuler. Et c'est là que l'élément est assez subtil finalement, parce qu'il faut à la fois mettre de côté, hein. Par exemple dans le livre des Proverbes, il nous est dit que la fourmi, eh bien, elle met de côté. Hein. Proverbe 6:6 nous dit « Va vers la fourmi paresseuse, observe son comportement et devient sage. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni supérieur. En été, elle prépare sa nourriture. Pendant la moisson, elle récolte de quoi manger. » Donc, le fait de mettre de côté, c'est une bonne chose, parce qu'il faut qu'on mette de côté. On mette de côté de l'argent, des aliments, etc. C'est biblique. D'accord ? Donc, il faut mettre de côté, parce que la fourmi le fait, et on peut l'imiter. Là, je vais une diapo, d'ailleurs, pour ça. Donc, travailler de ses mains et imiter la fourmi, c'est bon. Le tout, c'est une question de quantité. C'est juste à partir de quand je commence à amasser et à me concentrer sur le fait d'amasser et d'accumuler. Et là, Jésus va nous donner, dans l'évangile de Luc, la parabole du riche insensé. On va prendre Luc chapitre 12, verset 16. Ouvrez vos Bibles. Et cette parabole du riche insensé que vous connaissez, qui est exclusive à Luc. Il n'y a que Luc qui parle de cette parabole. D'ailleurs, Luc a énormément de paraboles exclusives. Donc, le riche insensé, on voit que lui, il va accumuler, d'accord ? Il a une récolte extraordinaire et il va accumuler tellement, il va même construire de nouveaux greniers parce qu'il s'inquiète pour l'avenir. Et c'est là que la liaison avec l'inquiétude est importante. Il s'inquiète pour l'avenir, donc il détruit ses greniers, il en construit de plus grands et il amasse. Et qu'est-ce que dit Jésus en conclusion ? Voilà quelle est la situation de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Donc le fait d'accumuler et d'amasser est une bonne chose parce que c'est un principe de précaution. Ça peut devenir mauvais si on accumule pour soi de manière irrationnelle, irraisonnée, et si on le fait pour soi et pas pour Dieu. Voilà, ça c'est l'accumulation et la thésaurisation. Le trésor, bah c'est pareil, le trésor, c'est ce qui est mis de côté, c'est le même mot. Donc ça renforce un petit peu cette notion. Et ce trésor, il peut être sur la terre ou dans le ciel. Alors on sait que ciel et terre sont séparés depuis la Genèse. Ils sont irréconciliables. Hein. Dieu est aux cieux, il a séparé le ciel et la terre. La terre, ça peut être assimilé au monde. Et vous savez que l'apôtre Jean nous dit « N'aimez pas le monde ni les choses qui sont dans le monde ». Donc si on accumule des choses du monde qui appartiennent au monde et qui est hostile à Dieu, ce monde qui est hostile à Dieu, eh bien, si on aime le monde, c'est-à-dire de manière, on va dire, inconditionnelle, hein, et quand l'apôtre Jean dit « N'aimez pas le monde ni les choses qui sont dans le monde », le mot qui est utilisé, c'est l'amour inconditionnel, c'est l'agapéo de Dieu qui est utilisé. Ça veut dire l'amour inconditionnel, et on peut aimer le monde inconditionnellement et laisser tomber Dieu. Alors, comment avoir un trésor dans le ciel ? Ben là, je vous invite à prendre l'évangile de Marc au chapitre 10, et au verset 21, je vous ai dit qu'on ouvrirait notre Bible, et je ne vous l'affiche pas volontairement, comme ça, ça vous amène à regarder dans votre Bible et à retenir les pages. Comment avoir un trésor au ciel ? Ben, c'est un peu simple. Jésus va saisir l'opportunité d'un jeune homme qui vient le voir, un jeune homme alors vraiment impeccable. Là, mesdames, messieurs, si vous avez une fille et que vous avez un jeune homme comme ça, il est propre sous toute couture. Il a tout fait ce qu'il fallait de la loi, il est riche, il a vraiment tout ce qu'il faut, c'est le gendre parfait. Il vient voir Jésus et il dit, mais comment je peux faire pour avoir la vie éternelle ? Et Jésus va lui donner la clé. Il va lui dire, alors il ne va pas lui dire, il faut que tu sois pauvre, c'est pas ça. Il ne lui dit pas qu'il faut qu'il soit pauvre, le jeune homme riche. Alors il y a eu des gens qui ont abusé un peu de ça, hein. Les franciscains, par exemple, qui ont dit, ben voilà, maintenant il faut que vous soyez pauvres. Pour rentrer dans le royaume de cieux, il faut être pauvre. Ce n'est pas ce que Jésus dit. Jésus lui dit simplement de se débarrasser de la chose qui prend la place de Dieu dans son cœur. C'est tout. Et chez lui, chez le jeune homme riche, c'était l'argent. Il avait des grandes richesses. Donc, comment faire pour avoir un trésor au ciel? Il faut juste se débarrasser de ce qui prend la place de Dieu dans mon cœur. Et là, je vous pose une question, et je me pose une question. Qu'est-ce qui prend la place de Dieu dans mon cœur, dans mon quotidien? Est-ce que c'est l'argent? Est-ce que c'est une activité? Est-ce que c'est mon travail? Est-ce que c'est ma famille? Est-ce que c'est, je ne sais pas. Chacun peut répondre à ça. Mais en tout cas, comment avoir un trésor au ciel? On a vu qu'il fallait accumuler un petit peu, il fallait être raisonnable, mais comment avoir un trésor au ciel? Ben, se débarrasser de ce qui prend la place de Dieu dans le cœur. Alors, notre Autrichien, Karl Rebeder, il s'est débarrassé de ce qui était l'objet de son attention tous les jours. Il a vendu sa maison, mais ça peut être autre chose pour chacun de nous. Mais il ne suffit pas de se débarrasser. Il faut aussi le remplacer. Parce qu'on sait que les bonnes intentions de se débarrasser, si on veut se débarrasser, ça revient. C'est un principe biblique, Jésus l'a dit. Si j'essaye de... L'homme dont dans la maison a été balayé et orné, le démon qui s'en va, il revient, il prend des démons, il revient avec d'autres démons et la condition de cet homme est pire. Vous connaissez ce texte. Donc il faut toujours se débarrasser et remplacer par quelque chose. C'est ce que Paul dit aux Éphésiens, il faut vous dépouiller et vous revêtir. Alors remplacer par quoi? Remplacer par un trésor dans le ciel. Et là c'est une question bancaire, c'est une question d'investissement. Où est-ce que je place finalement mon investissement? Est-ce que je le place sur une banque terrestre, avec les limites que je vous ai dites par rapport aussi à notre vie quotidienne et matérielle dont on a besoin, ou est-ce que je place dans la banque du ciel? Alors, le côté cœur, il y a un verset, je crois, qui nous éclaire bien dans la Bible. C'est un verset de Job, en fait, qui est prononcé par Eliphaz. Et à un moment donné, alors on sait qu'Eliphaz, il n'est pas intervenu à propos, mais il a dit des choses vraies. C'est un peu exagéré, mais c'est un peu comme Karl Rebeder. Jette l'or dans la poussière et le Tout-Puissant sera ton or. C'est-à-dire que Dieu peut nous combler. C'est aussi un autre verset de la Bible. Quand Paul parle à Timothée, il nous dit « Dieu peut vous combler de toutes ses grâces, afin que possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute œuvre bonne. » Voilà. Donc, c'est le remplacer, le trésor dans le ciel, c'est vraiment un investissement dans la banque du ciel. C'est un investissement matériel, c'est un investissement d'argent. Alors, on peut investir pour le royaume de Dieu, on peut donner à des œuvres chrétiennes, on peut engager son argent pour développer soi-même des œuvres chrétiennes, mais on peut aussi investir du temps, investir de l'engagement, investir finalement notre être entier pour construire ce fameux trésor dans le ciel. Et pourquoi on ferait ça? Parce que la Bible nous dit que c'est en Christ que sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Le mot trésor, en fait, est très peu utilisé dans le Nouveau Testament. Il est utilisé donc dans ces textes de Matthieu et de Luc, du Sermon sur la montagne, mais ils sont utilisés en Colossiens 2:3, en Christ sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. D'accord? Donc le trésor, c'est Christ. Et tout ce que je vais faire, c'est essayer de m'attacher à lui. C'est ça qui est important. C'est qu'est-ce que je vais faire pour m'attacher à Christ? C'est ça, construire un trésor dans les cieux. C'est s'attacher à Christ. Et Dieu voulant, cet été, on aura une série d'études sur les disciplines spirituelles de Jésus. Qu'est-ce que Jésus faisait au quotidien pour s'attacher au Père? On va essayer de le regarder et d'essayer de l'imiter nous-mêmes, justement pour construire ce trésor dans les cieux. C'est aussi la parabole de l'homme qui trouve une perle de grand prix, qui trouve un trésor dans un champ, et il comprend que c'est tellement important qu'il va tout vendre ce qu'il a. Il se débarrasse de tout ce qui le gêne pour essayer d'avoir cette perle, d'avoir ce trésor dans les champs. Donc le trésor et le cœur, finalement, ça va ensemble. Et c'est pour ça que la Bible nous met en garde sur « garde ton cœur plus que toute autre chose ». Alors, je n'ai pas le temps de m'étendre sur le « garde ton cœur ». Mais en gros, le cœur, ça fait plus référence à... C'est le centre de la vie physique et spirituelle. C'est le siège de nos pensées, c'est le siège de nos émotions, c'est le siège de nos décisions. Et le mot « cœur » pourrait être avantageusement remplacé par « pensée ». Si on revient au texte de l'Ancien Testament, donc le texte du... de Proverbes, chapitre 4, « Garde ton cœur plus que toute autre chose », c'est plus « garde tes pensées ». Garde tes pensées. Alors pourquoi est-ce qu'on parle de cœur ? C'est assez spécial. Je me suis posé la question, pourquoi on parle de cœur ? Alors que le cœur, c'est juste un muscle, quoi. C'est un organe qui se contracte, c'est un organe qui bosse, quoi, qui se contacte 150 000 fois dans une vie, et il travaille beaucoup, quoi. Ben, je me disais que peut-être on parle de cœur, parce que lorsqu'on a des pensées, lorsqu'on prend des décisions dans notre tête, eh bien ça génère toujours des émotions. Par exemple, un jeune homme qui va décider de se marier, quand il pense à sa fiancée, il a le regard tourné vers sa fiancée, ou une jeune fille vers son fiancé, ben, ça suscite des émotions. Et une émotion va mettre en jeu un système nerveux de l'organisme qui s'appelle le système autonome. On a en fait deux systèmes nerveux dans l'organisme. On a un système conscient, le système moteur, c'est-à-dire je décide de lever la main. C'est mon cerveau qui envoie un signal conscient à mes muscles pour lever la main. Puis vous avez un système autonome qui est indépendant de notre volonté, qui fonctionne tout seul. C'est ce qui nous permet de respirer, ce qui nous permet de digérer, etc. Et ce système, en fait, il marche par dualité-opposition. Il y a un système dit sympathique et parasympathique. Je ne rentre pas dans les détails, c'est médical. Mais ces deux systèmes sont en opposition. Et le système sympathique est celui qui, lors d'une émotion, va générer la sécrétion d'une hormone, enfin pas une hormone, une substance qu'on appelle l'adrénaline, qui va accélérer le cœur. Donc quand on a une émotion dans notre organisme, le cœur s'accélère, on a des palpitations, on rougit, on commence à suer, on a les mains moites. Et donc ce système autonome, dit sympathique, eh bien, va générer des réactions dont l'accélération du cœur que l'on ressent directement. Donc peut-être que, par extension, Dieu a permis qu'à un moment donné, on ait un retentissement émotionnel dans un symptôme physique. Et c'est peut-être pour ça qu'on parle de cœur. Mais en tout cas, garde ton cœur dans Proverbe, c'est le mot leb en hébreu, c'est vraiment le mot pensée. Donc, ça me permet de ne pas m'étendre sur les pensées. Je vous renvoie au message de Colin, il y a, de mars, où il a parlé des pensées et il a parlé de la manière de garder ses pensées. Mais en fait, le cœur, pour garder son cœur, pour que le cœur soit orienté dans la bonne direction, c'est vraiment l'orientation des pensées. Donc, je vous renvoie au message de Colin, parce qu'il était très bon. Il a vraiment donné 7 clés, hein, pour garder ses pensées. Et c'est ces pensées-là qui vont nous permettre, hein, c'est pour ça que la porte d'entrée, c'est toujours les pensées. Hein, c'est la première porte d'entrée que Jésus aborde. Voilà. Donc si on veut garder le trésor, eh bien, c'est les pensées qui doivent être orientées vers les choses du ciel et pas vers les choses de la terre. Et si on n'est pas persuadé, si vous n'êtes pas persuadé, ben, Jésus va donner 2 ou 3 exemples en disant, ben, si vous vous amassez des trésors sur la terre, qu'est-ce qui se passe ? Eh ben, y a des mythes. Mettez un pull de laine avec des mythes dans un placard, vous revenez 2 ans après, il n'y a plus rien. D'accord ? Achetez-vous une belle voiture aujourd'hui, dans 20 ans, ça sera une carcasse et elle ne vaudra plus rien. Et puis, il y a les voleurs. Hein. Donc, si on n'était pas persuadé qu'en Christ sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance, Jésus nous rappelle dans ce texte de Matthieu que, de toute façon, l'accumulation sur terre est vouée à la destruction. Et je vous passe également les textes de l'apôtre Pierre qui disent qu'un jour la terre sera effacée, tout sera détruit par le feu, etc. Donc, conclusion de premier élément du cœur, où est mon cœur ? Quelle est la priorité de mon cœur ? Est-ce que la priorité de mon cœur, c'est le ciel ou est-ce que c'est la terre ? Deuxième élément, c'est l'œil. Alors l'œil, je vois que le temps passe. Jésus, il a déjà abordé le sujet de l'œil. À propos de l'adultère, hein, il a dit « Si ton œil est une occasion de chute, arrache-le et coupe-le. » L'œil, c'est la porte d'entrée de la tentation. Alors l'œil peut être en bon état, d'accord, ou il peut être en mauvais état. Donc là encore, les mots qui sont utilisés, le mot « bon état » pour l'œil, ben, ça signifie un œil qui est simple, un œil qui est unique, un œil pur, un œil sincère, un œil qui n'est pas divisé. C'est très important de comprendre ça. C'est-à-dire que si, là encore une fois, c'est lié à la pensée, c'est pour ça que j'ai développé le côté cœur, c'est que si ma pensée est alignée avec mon œil, c'est-à-dire si l'œil voit quelque chose de simple, qu'il a une vision juste, eh bien, ça évite d'avoir un cœur partagé, ça évite d'avoir de la duplicité. Et ça fait écho au mot inquiétude, parce que le mot inquiétude, c'est le mot partagé, le mot tiraillé. Donc, vous voyez que tout est lié ici. Et puis, l'œil peut être en mauvais état. Il peut être en mauvais état spirituel. C'est quoi le mauvais état spirituel? Eh bien, c'est lorsque, finalement, on a un mauvais œil. Jean 3, 19 nous dit « Les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres sont mauvaises. » Et on retrouve ce mot « mauvais ». C'est-à-dire que lorsque mon œil est mauvais, lorsque je regarde pour convoiter, lorsque je regarde pour envier, lorsque je regarde dans un intérêt personnel, eh bien mon œil est en mauvais état. Et c'est pour ça que Paul va prier, quand il parle aux Éphésiens, il va prier pour que Dieu illumine les yeux de votre cœur. Parce qu'on a besoin d'être illuminé et éclairé par la parole de Dieu. C'est ça la lumière dont il est parlé ici. L'œil est la lampe du corps. Attention, ton corps peut être éclairé ou ton corps peut être dans les ténèbres. Et cette lumière, c'est quoi? Eh bien, c'est la conscience, c'est l'être intérieur. C'est la conscience qui nous fait reconnaître que Jésus est Messie, que Jésus est notre Sauveur. Et c'est cette mauvaise conscience, ce mauvais œil qui ont empêché les pharisiens de le reconnaître comme le Sauveur du monde. Et les pharisiens, ils étaient dans les ténèbres. Être dans les ténèbres, c'est quoi? C'est l'aveuglement du cœur, c'est l'aveuglement de la conscience. C'est l'aveuglement qui est faussé si l'on s'attache aux possessions, aux richesses. Métaphoriquement, les ténèbres, c'est l'ignorance des choses divines, c'est l'immoralité. Donc l'œil, en fait, c'est à la fois une porte d'entrée pour le corps, d'accord ? Mais ça va dans les deux sens. Parce que si le corps est en mauvais état, l'œil reflète finalement l'intérieur. Je passe vite là-dessus, mais l'œil est à la fois le point d'entrée et le point de sortie. C'est ce que Jésus disait. Il disait, c'est du cœur que sortent les mauvaises pensées, les adultères, c'est de l'intérieur de notre corps. Donc l'œil, c'est la porte d'entrée parce qu'il peut nourrir notre corps, il peut nourrir nos pensées de bonne ou de mauvaise manière, mais également, nos pensées vont alimenter ce qu'on va regarder. Quand on voit une affiche dans la rue de femme qui est déshabillée, je parle pour les hommes, eh bien, est-ce que notre œil va regarder ça? Ça dépend de ce que j'ai à l'intérieur. Si je suis attaché à Christ, je vais détourner le regard. Si je ne suis pas attaché à Christ, mon œil va traîner à droite, à gauche. Il va traîner devant mon écran d'ordinateur le soir, tard, etc., etc. Parce que c'est de l'intérieur que viennent les mauvaises pensées, les adultères et la soif de posséder, nous dit Jésus. Voilà pour l'œil. Et enfin, le troisième élément, c'est quel est notre maître? L'argent. Est-ce que l'argent est un maître ou un serviteur? Alors là, je n'ai pas trop le temps de m'étendre non plus, mais nul ne peut servir de maître. Le mot servir, c'est vraiment le mot esclave. C'est le mot esclave, c'est-à-dire lorsque Paul ou Jacques ou les apôtres se présentent dans leurs lettres, ils vont dire Paul, serviteur de Jésus-Christ. Et le mot serviteur, c'est le même que servir. C'est le mot esclave. C'est quoi un esclave? C'est quelqu'un qui sert un maître qui a tout pouvoir sur lui. Et là, on peut avoir le choix de servir soit un maître qui est bon, soit un maître qui est mauvais, qui va nous consommer. Et Jésus nous dit, on ne peut pas faire l'un ou l'autre. On ne peut pas faire un petit peu l'un, un petit peu l'autre. On ne peut pas passer de l'un à l'autre. Il y a un choix à faire. Et chacun de nous, en tant qu'esclave, on n'a pas le choix, on sert toujours quelqu'un. Donc si on n'en sert pas un, on sert forcément l'autre. Le ni Dieu ni maître, je vous l'ai dit, ça n'existe pas. Donc comment est-ce que je peux comprendre tout ça? Est-ce que Jésus condamne finalement les richesses? Moi je ne pense pas, parce que dans la Bible il nous est dit, Proverbe 22:2, que le riche et le pauvre se rencontrent, c'est l'Éternel qui les a fait l'un et l'autre. Donc Dieu permet qu'il y ait des riches et des pauvres dans le pays. C'est ce qu'il dit dans le Deutéronome, il y aura toujours des pauvres et des riches dans le pays. Mais Dieu recommande aux riches d'être généreux et de prendre soin des pauvres. Donc la pauvreté et la richesse, ça fait partie du monde, parce qu'on est dans un monde déchu, et c'est inévitable. Donc les tenants de l'évangile de la prospérité qui vont vous dire « Servez le Seigneur, il vous bénira, vous serez dans l'abondance, etc. » Ben non, c'est pas biblique. L'évangile de la prospérité n'est pas biblique. Dieu dit qu'il y a toujours des riches et des pauvres, et ce n'est pas une question de richesse et de pauvreté. Parce que ce que Jésus présente dans ce texte, c'est réellement non pas la richesse, qui est une notion qui est neutre. L'argent est une question neutre. Mais Jésus met l'accent ici sur la relation qu'on peut avoir avec la richesse. Et c'est ça qui est important. Ce n'est pas une question de richesse et de pauvreté. Parce qu'on peut être riche et détaché des choses. Le roi David était très riche. Salomon était immensément riche. Hergé Le Tourneau était très riche. Je ne sais pas si vous connaissez Hergé Le Tourneau. C'est le monsieur qui a écrit, un Américain, qui a écrit « Dieu dirige mes affaires ». Il a créé une entreprise aux États-Unis au début du siècle de méga tracteurs, qui existe aujourd'hui encore. C'est quelqu'un qui, à un moment donné, son but, c'était de parcourir donc l'ensemble de ses entreprises sur le territoire américain, d'instaurer des groupes de prières dans les églises. Il donnait 90% de ses revenus et il a consacré sa vie à Dieu. Il était très riche, mais il était détaché des richesses. Et on peut très bien être inversement pauvre et très attaché aux choses matérielles. Donc ce n'est pas une question d'argent, de quantité, c'est une question de regard que je vais porter. Il n'y a qu'à voir les comportements des gens qui gagnent au loto. Vous avez des gens qui ont un comportement sage et des gens qui vont en 6 mois tout dilapider. Donc c'est vraiment une question d'attitude que l'on a. Mais cette attitude, elle va commencer par le cœur. Quel est l'état de mon cœur? Qu'est-ce que je vais regarder? Quel est l'état de mon œil? Et ensuite, quel est le maître que je sers? Et c'est ça les questions importantes. Alors, la clé pour comprendre ces notions de richesse terrestre et éternelle, je crois que c'est la parabole de Lazare et du riche, en Luc 16. Encore une parabole exclusive de Luc. On n'a pas le temps d'y revenir là-dessus, mais cette parabole nous montre qu'à un moment donné, voilà, les richesses terrestres, c'est terminé. La terre, un jour, sera détruite. Un jour, on va partir. On est arrivé sur terre nu, on repart nu. On n'emporte rien, Paul le dit à Timothée. Donc, c'est ça qui est important à comprendre pour être apaisé par rapport à ce texte. Et donc, si l'argent, si Mammon est notre maître, eh bien, il va nous contrôler. Là, je n'ai pas trop le temps de m'étendre là-dessus, mais il y a un passage de l'Ecclésiaste au chapitre 5, vous pouvez noter la référence, qui nous parle que finalement, l'accumulation de richesses et d'argent, eh bien, ça n'amène à rien, ça ne rassasie pas, tout est vanité. Un jour, on s'en lasse. Et c'est peut-être pas la peine de consacrer autant de temps à ça. C'est pas la peine de se soumettre à ce maître-là, finalement. Alors, si on voulait s'appliquer ça à nous-mêmes, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Alors, on a vu 3 choses, d'accord? On a vu qu'il y avait le cœur. Et le cœur, il peut être au ciel ou sur la terre. Qu'est-ce que j'amasse? Au ciel et sur la terre. On a vu qu'il y avait notre œil et notre corps. Il peut être éclairé ou il peut être dans les ténèbres. Et puis, on a vu qu'on pouvait avoir 2 maîtres uniquement, soit Jésus, soit Mammon. Et il n'y a pas de position intermédiaire. C'est comme le salut. On ne peut pas dire « je suis presque sauvé » ou « je suis à 2 doigts d'être sauvé » ou « je suis en cours d'être sauvé ». Non, il y a 2 positions. C'est « aujourd'hui, je suis sauvé » ou « je ne le suis pas ». Si Jésus revient maintenant, dans 1 minute, il y a certaines personnes ici qui partiront, le plus possible, j'espère. D'autres qui ne partiront pas. Pas de situation intermédiaire. Pour Jésus, les maîtres, c'est exactement pareil. On en sert un ou l'autre, mais on ne peut pas servir les 2. Donc la clé pour ça, eh bien, c'est vraiment de chercher Jésus de tout son cœur. C'est ce que dit Jérémie 29, vous connaissez bien ce texte, Je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Et vous me chercherez, vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Donc c'est vraiment les trois points de vigilance auxquels il nous faut faire attention. Et pour illustrer ça, j'ai choisi deux exemples bibliques pour conclure. Le premier exemple, c'est l'exemple de Lot, et le deuxième, celui de Moïse. Vous voyez, je les ai mis volontairement d'un côté ou de l'autre du schéma. Qu'est-ce qui nous est dit de Moïse ? Moïse, il nous est dit que il estimait que choisir le camp de Jésus avait plus de valeur que les trésors de l'Égypte. Il aurait pu être pharaon en Égypte. Il a choisi de renoncer à ça. Contrairement à notre Autrichien Karl Rebeder, il savait pourquoi il renonçait à ça. Parce qu'il regardait sur la récompense qui est au ciel. Et il a eu une sacrée vie de galère. Parce que quand il a décidé ça, 40 ans de désert et 40 ans avec un peuple gémisseur. Donc 80 ans, tout ça pour ne même pas voir la terre promise. La deuxième voie, c'est Lot. Lot, à un moment donné, encore une fois, l'œil. Il a eu l'œil qui s'est porté sur les riches, sur la riche plaine de Sodome. Il savait que les habitants de Sodome étaient mauvais et pécheurs. Mais pourtant, son œil l'a entraîné. Il a choisi cela. Et en ayant choisi cela, eh bien, il a passé une vie à se tourmenter. Et il a conduit ensuite à des catastrophes, hein, puisqu'il a donné naissance à deux peuples hostiles à Israël, Ammon et Moab. Donc, deux voies et deux visions qui correspondent à ce que Jésus ici nous dit. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir comme message clé ? Ben, je pense qu'il y a un véritable enjeu spirituel pour nous. D'accord ? L'argent est un bon serviteur, mais il peut être un mauvais maître. Comme on l'a dit, il est neutre en soi. Et ce ne sont pas les choses matérielles qui sont mauvaises, mais c'est le regard et l'attitude que je vais porter sur elles. Et je vous laisse avec trois réflexions. C'est premièrement, où est mon cœur ? Où est mon cœur ? Est-ce qu'il est dans les cieux ? Ou est-ce qu'il est sur les choses de ce monde ? Comment est mon œil ? Comment est mon cœur ? Comment est mon corps ? Comment j'éclaire mon corps ? Et quel est mon maître ? Qui est-ce que je sers ? Voilà. C'est des questions auxquelles moi-même, je dois répondre au quotidien. Ce n'est pas facile. Parce que quand on engage un achat, quand on prend une décision d'investissement, ben, c'est toujours une réflexion. Est-ce que j'en ai besoin ? Est-ce que ma famille en a besoin ? Et je suis repris tous les jours par ça. Ne croyez pas que c'est facile. Ce n'est pas parce que je vous raconte ça aujourd'hui. Moi, je me suis contenté d'étudier le texte et j'ai été repris sur plein de choses. Voilà, et c'est vraiment un combat au quotidien. Mais c'est un combat qui est sain. Parce que l'enjeu pour nous, on verra la prochaine fois, c'est les inquiétudes. Si je réponds bien à ces questions-là, je peux prendre la parole de Jésus qui nous dira « Ne vous inquiétez pas pour votre vie, parce que j'aurai fait les bons choix et j'aurai pris les bonnes réponses à ces questions. » Voilà, merci et bon dimanche à chacun.